Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Les premières années, il y avait les houblons américains qui sont très aromatiques, très flatteur et qui effectivement permettait de dire bah voilà la bière ça peut avoir un goût tropical ou un goût ultra agrume. Mais aujourd'hui on essaie vraiment de bosser pour faire des filières locales, pour faire des bières qui ont du sens, donc on disait bière de goût, bière de sens, pour questionner un peu ce que c'est être une brasserie artisanale, parce que c'est aussi une les gens disent bière artisanale et locale et finalement ils savent pas forcément ce qu'ils mettent derrière. Donc on est plutôt davantage là-dedans et davantage dans le fait de revisiter des styles un peu anciens. Donc on se dit plutôt que de faire énième IPA avec les mêmes variétés de houblon très flatteuses que toutes les brasseries à travers le monde, bah ok, comment est-ce qu'on fait pour utiliser des choses qu'on a autour de chez nous et pour finalement se mettre davantage de contraintes dans le process créatif. Moi je crois vraiment que plus on se met de contraintes, plus on arrive à créer des trucs, alors que juste chercher les meilleurs ingrédients du monde et les mettre dans une assiette ou dans une bière, c'est sympa, ça marche, mais au final c'est pas hyper nourrissant comme démarche quoi.
Bonjour, vous écoutez À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast, et dans ce nouvel épisode, j'invite un ou une chef à se dévoiler en cuisinant un plat de son choix. Aujourd'hui, c'est un chef un peu particulier que je reçois puisqu'il crée des recettes de bière et non de cuisine. Il s'agit de Thomas Deck, cofondateur de la brasserie francilienne Deck & Donohue, réputée pour ses bières de goût, qui a choisi de cuisiner une poêlée super saine et gourmande avec trois ingrédients, de la courge, du kale et des shiitake. Bonne écoute.
Alors aujourd'hui, je vais faire un truc que j'aime bien faire en cette saison. Trois ingrédients et juste un léger quatrième pour l'assaisonnement. Mais en gros, c'est trois ingrédients, mais trois cuissons pour rendre le truc un petit peu plus intéressant et plus gourmand. Du coup, du kale, où j'enlève un petit peu les côtes pour que ça cuise pas trop longtemps. Du potiron, où là, on essaye de faire des tranches pas trop lourdes et pas trop épaisses, parce que c'est pour cuire au four, après, pour bien le rôtir. Et les shiitake, où c'est des tranches un petit peu grossières, et ça, on va bien faire revenir... À la poêle, j'aime bien les shiitake pour le côté très, très gourmand et très viande sans avoir de viande. Et ensuite, j'ai juste préparé des échalotes dans un peu de vinaigre de cidre pour rafraîchir un peu tout ça juste au moment de servir.
J'allais te demander, t'es vegan ou...
Pas du tout. Mais en fait, je suis plutôt gourmand et bon mangeur. Et du coup, quand je suis à la maison... Et encore plus quand je suis tout seul, j'essaye de faire attention. Donc, notamment, je ne bois pas de bière quand je suis tout seul à la maison. Et j'essaye de manger plutôt des légumes. Du coup, on va commencer par blanchir le kale. Le kale, au début, moi, j'aimais pas trop. Je trouvais que ça avait pas de goût. Et j'ai appris à l'apprécier progressivement.
C'est Daniela qui t'a... C'est ça. T'as appris?
Bah, Daniela, elle est beaucoup plus intuitive que moi en cuisine et en tout d'ailleurs. Et du coup, moi je faisais le truc un peu mécaniquement et ça avait pas vraiment de goût. Et ensuite, maintenant j'ai plus tendance à le blanchir et à le faire revenir à la poêle ensuite. Et ça rend le truc un peu plus agréable quand même.
Moi je t'imaginais faire des pot-au-feu, des bœufs bourguignons avec de la bière dedans, tu vois, ce genre de choses.
Non, je fais pas de la cuisine à la bière tous les jours au quotidien, ça pourrait. Et non, quand je suis arrivé à Paris, je faisais vraiment saucisses au couteau aligo. Donc en gros, j'achetais une saucisse au couteau, j'achetais de l'aligo, et c'est difficile de rater une fois que t'as tout ça. Et ouais, j'ai mis un peu de temps à vraiment essayer de cuisiner des trucs, quoi. Donc j'aimais toujours bien manger, mais je faisais pas grand chose par moi-même. Donc j'y viens progressivement.
C'est de traîner dans les restos et dans ton resto ici qui...
Ouais, je pense que ça m'a donné plus envie progressivement. Et je pense que c'est aussi tester des trucs et se faire un petit peu plus confiance, quoi. Au début, j'étais toujours avec mon livre et j'étais là à mettre le minuteur. S'il y avait marqué que c'était 10 minutes les pâtes, c'était 10 minutes. Alors que maintenant, c'est un peu plus... tu goûtes et si c'est bon, c'est bon, quoi. On prend de l'huile de tournesol. Alors, j'aime bien l'huile de tournesol et celle-ci, elle vient de la Fabrique Végétale. C'est un couple qui est basé à Lumigny, à 1 heure de Paris. Et c'est des gens avec qui on travaille de plus en plus pour la brasserie. C'est à 50 km de la brasserie à peu près. Et en fait, ils font à la fois des céréales et des huiles. Et on est en train de faire une filière de malt bio ultra local avec eux. Et en même temps, Claire, elle a une plantation de plantes médicinales, bio et en agroforesterie. Et on travaille avec elle pour certaines bières, dans lesquelles on va utiliser des herbes. Et pour les boissons sans alcool, Ricochet, dans lesquelles on utilise du romarin et de la moindre poivrée qui vient de chez eux.
C'est quoi comme courge ?
Alors celle-ci, je sais plus le nom, elle est ouais, presque noire, ouais. Elle avait une belle couleur. Ça marche avec tout type de courge, il faut plutôt des courges avec des peaux pas très épaisses. Là, celle-ci, elle est vraiment toute fine. Alors, notre eau va bientôt bouillir, on va pouvoir mettre notre kale. Le fait de le blanchir d'abord, ça aide à garder la couleur bien intense. Sinon, on peut le faire à la poêle ou au four, mais on perd un petit peu la couleur. Il y a deux options. Soit on fait toute la cuisson à l'eau et du coup c'est plutôt une dizaine de minutes, soit on fait juste blanchir 2 minutes et on fait ensuite à la poêle. Du coup moi je préfère le faire quasi intégralement à l'eau, comme ça ce sera bien bien moelleux. Donc je vais mettre genre 8 minutes.
La brasserie elle a 8 ans alors, tu disais ?
Ouais, on a 8 ans le 13 mars. C'est vrai que les premières années, on fêtait tous les ans l'anniversaire. Même pour les 3 ans, on avait fait des festivités sans fin. Après, ça prend pas mal de temps à organiser. Donc, et en plus, en fait, notre dernier anniversaire qu'on a fêté, c'était les 5 ans. On avait fait ça en mars, la vraie date. Et c'était un jour où il neigeait. Et toutes les festivités étaient prévues à l'extérieur. Du coup, ça a été un petit peu douloureux. Il y avait des concerts sous la neige. Il y avait des... voilà. Donc c'était un petit peu dur, donc on va peut-être attendre le printemps pour faire quelque chose de plus sécurisé, quoi, de ce point de vue-là.
Comment t'es venu à la bière ?
Moi je suis alsacien d'origine, mais j'avais vraiment pas de culture bière, pas du tout de parents ou de grands-parents ou qui que ce soit qui baignait là-dedans. Et en fait c'est pendant mes études, j'ai fait 1 an d'échange aux États-Unis. Et mon voisin de chambre sur le campus, il s'appelait Mike Donohue, et lui, il était un peu dans le côté do it yourself et dans les trucs apprendre à faire les choses par soi-même. Et du coup, il avait déjà fait de la bière chez lui, et c'est lui qui m'a vraiment intéressé à ça. Et on s'est passionné pour la bière ensemble, et on s'est dit qu'un jour on allait faire une brasserie ensemble. Alors ça, c'était en 2002-2003.
C'était un peu sur le ton de la blague au début.
Non, je crois qu'on était tous les deux sérieux et qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment le faire. Après, on s'est jamais trop dit où et ni quand ni quoi. Donc, on a chacun fait notre petit bout de chemin. On se voyait tous les ans ou tous les 2 ans. On allait visiter des brasseries, on se rendait visite. Et on a décidé de se lancer à Paris et en 2013. d'où le nom de la brasserie Decade on a You. Je pense un truc important pour nous, c'est que la bière, c'est fondamentalement un produit de recette, donc c'est aussi un vrai lien avec, avec l'univers de la cuisine. Et du coup, on a préféré donner notre nom à la brasserie plutôt que de l'appeler bière de Montreuil, là où on a commencé, ou bière de Bonneuil, ou bière d'Île-de-France. Parce qu'effectivement, notre projet, on savait qu'il se ferait un jour, mais on savait pas spécialement où. Et du coup, le fait de mettre notre nom, c'était un peu un engagement d'artisan de dire si on met notre nom dessus, faut que ce soit bon et ça nous permet d'expliquer notre démarche, quoi.
Ah, vous avez tout de suite capitalisé sur des recettes très travaillées.
Ouais, on avait vu qu'on a pris tellement de temps pour se lancer. Mike, lui, il a travaillé pendant 6 ans dans différentes brasseries aux États-Unis, donc il avait vraiment une belle expérience de production. Et moi, j'ai fait un stage dans une petite brasserie en Alsace et je suis parti de là-bas avec du malt, du houblon et de la levure. Et donc pendant 8 ans, je faisais de la bière chez moi dans ma cuisine et ma salle de bain. Donc on avait les deux approches. Il y avait le côté bricoler avec des casseroles, et il y avait le côté savoir répliquer des recettes et avoir aux États-Unis, la brasserie artisanale, il y avait 10 ou 15 ans d'avance par rapport à ce qu'on voit ici. Là, on va commencer à cuire les shiitake. Huile d'olive, j'ai huile d'olive de chez Alex de Profil Grec et un petit peu d'huile de tournesol. Ce qui est important pour nous quand on a commencé, c'était de montrer déjà que la bière pouvait avoir du goût. C'est vrai que il y a 10 ans, il y a plein de gens qui me disaient moi j'aime pas la bière, ou oh là là, c'est une idée bizarre d'ouvrir une brasserie artisanale en France, ça va jamais marcher.
Vous étiez un peu précurseur.
On a eu de la chance de pas se lancer. Ouais, on a eu de la chance de pas se lancer en 2003 à la fin de nos études, parce que là, je pense que personne n'aurait compris. Et finalement, quand on a commencé, il y avait déjà eu des précurseurs qui avaient fait ce travail d'expliquer un petit peu la démarche. Donc on est arrivé, on a eu plutôt de la chance là-dessus. Et par rapport à tous les gens qui se disaient j'aime pas la bière, pourquoi, parce que ça a pas de goût ou parce que c'est amer. Du coup, on a essayé de faire des recettes bien équilibrées, de faire pas mal de recettes différentes pour aussi montrer la richesse et la diversité de la bière. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui disent moi j'aime pas le vin, et du coup pour moi dire j'aime pas la bière, c'est je me dis ok, je peux ne pas aimer certains styles de bière, mais il y en a tellement qu'on va forcément trouver quelque chose qui va plaire. Et du coup au début, je pense qu'on a fait des bières qui mettaient pas mal en valeur le houblon, parce que le houblon, donc c'est la fleur du brasseur, c'est ce qui donne l'amertume, mais c'est aussi ce qui va donner beaucoup d'aromatique, parce qu'il y a des huiles essentielles dans la fleur de houblon, et c'est ça qu'on va retrouver.
C'était par goût ?
C'était par goût, et c'était par besoin aussi de montrer quelque chose de différent, justement. Donc je pense que beaucoup de la révolution craft beer aux États-Unis s'est faite avec ça. Là, j'utilise un tout petit peu de poudre de braise. Alors normalement c'est pour les viandes, les poudres de braise relingées, et j'aime bien avec les shiitake, comme c'est très viande à la base, ça permet de le renforcer encore un petit peu ce truc là. Ah oui, un autre truc que je faisais quand je cuisinais jamais, c'est que j'achetais juste des épices relingées avec les instructions précises, et du coup s'il y avait un sel qui était pour Saint-Jacques, je faisais une Saint-Jacques et je mettais juste le sel dessus. Et maintenant je m'amuse à jouer un petit peu plus avec et à faire à moins suivre les règles qui sont marquées sur l'étiquette. Quand on demande aux gens est-ce que vous aimez l'amertume, souvent les gens ils disent que non, et du coup l'idée c'était de montrer qu'en fait l'amertume ça peut être bon. Et je pense que les cocktails, avec les évolutions dans la cuisine sur les 10-15 dernières années, les gens vont vers ce genre de goût, alors que il y a un moment on était tous un peu contre ça. Et du coup la bière, je pense qu'elle est arrivée à ce moment là et du coup pour montrer que la bière avec du goût, ce qui était important pour nous, c'était justement de la mettre dans des endroits de goût. Donc on est allé vraiment, nos premiers clients c'était des lieux bistronomiques, gastronomiques, des bars à cocktails, des caves à vin, pour que le produit vive dans les mains de gens qui faisaient attention, quoi. C'est vrai que tous les deux, je pense qu'on était vraiment passionnés par l'univers du goût de manière générale, pas juste 100% bière. Et du coup, ça nous faisait plus plaisir de voir notre bière dans des lieux qui proposaient tout type de boissons et qui proposaient des vraies expériences gustatives que dans des lieux uniquement centrés sur la bière, où parfois ça a tendance à être un petit peu renfermé sur soi, quoi.
Égoutter le kale.
Bien tendre et bien cuit, donc on peut choisir de quand même le poêler un tout petit peu pour la gourmandise, ou sinon le mettre direct comme ça. Donc on va quand même le poêler pour la gourmandise, forcément. Mais l'option existe. Là, une petite dizaine de minutes. Là, ils étaient coupés assez fins, donc ils sont quasi bons. Je pense qu'on va réduire le feu et revenir pour les sauter vraiment et les saisir un peu plus fort tout à la fin.
Donc là, tu fais poêler ton kale.
Ouais. Sécher un tout petit peu pour que ce soit pas que ça rappelle pas les épinards de la cantine. On va juste devoir patienter puisque le potiron est un petit peu en retard sur la cuisson.
Tu disais, vous étiez beaucoup sur l'amertume au début. Aujourd'hui, quelle est votre ligne directrice? Enfin, ta ligne directrice, parce que tu restes... maintenant, tu es tout seul à la tête de ton entreprise.
On était deux à avoir monté la brasserie et on a fait l'erreur de base des amis qui s'associent. C'est qu'on s'est dit que l'amitié allait nous aider à bosser ensemble. Et en fait, ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, c'est moi qui pilote la brasserie. Parce que progressivement, on cherche à faire un peu le même cheminement que ce qu'on a vu dans la cuisine, justement. Donc, c'est d'aller vraiment davantage vers des approvisionnements locaux. Les premières années, il y avait les houblons américains qui sont très aromatiques, très flatteurs, et qui effectivement permettaient de dire, la bière, ça peut avoir un goût tropical ou un goût ultra agrume. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de bosser pour faire des filières locales, pour faire des bières qui ont du sens. Donc, on disait bière de goût, bière de sens, pour questionner un peu ce que c'est être une brasserie artisanale, parce que c'est aussi une... les gens disent bière artisanale et locale, et finalement, ils savent pas forcément ce qu'ils mettent derrière. Donc on est plutôt davantage là-dedans, et davantage dans le fait de revisiter des styles un peu anciens. Donc on se dit plutôt que de faire énième IPA avec les mêmes variétés de houblon très flatteuses, que toutes les brasseries à travers le monde, comment est-ce qu'on fait pour utiliser des choses qu'on a autour de chez nous et pour finalement se mettre davantage de contraintes dans le process créatif. Moi, je crois vraiment que plus on se met de contraintes, plus on arrive à créer des trucs, alors que juste chercher les meilleurs ingrédients du monde et les mettre dans une assiette ou dans une bière, c'est sympa, ça marche, mais au final, c'est pas hyper nourrissant comme démarche, quoi. Donc là, cette année, un de nos gros projets, c'est qu'on est en train de mettre en place une filière de malt bio ultra local avec 4 agriculteurs qui sont à moins de 50 km de la brasserie. Donc ils vont semer là dans les jours à venir de l'orge qu'on va récolter cet été, qui va être malté à l'automne et qui va pouvoir être utilisé dans nos bières, donc avec une traçabilité vraiment au plus près dans les approvisionnements, et en même temps utiliser des houblons locaux et aussi des plantes et d'autres ingrédients locaux pour se dire qu'est-ce qu'on a comme ingrédient et faisons une bière autour, plutôt que de se dire j'ai envie de faire une bière avec un goût de litchi et je cherche sur internet le houblon qui va être le plus litchi possible, quoi.
Vous continuez quand même à être super exigeant. Enfin, tu continues quand même à être super exigeant sur le goût.
Ah oui, le goût, je pense qu'il est, c'est toujours l'enjeu numéro un. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des choses qu'on referait plus. Donc, par exemple, on avait une bière qui était justement une tropical IPA où il y a beaucoup de gens qui, des années après, me disaient c'est votre meilleure bière. Et moi aujourd'hui, c'est une bière que j'aurais plus envie de refaire, quoi. C'est avec de la noix de coco livrée limite en avion, et ouais, ça aromatise, mais c'est un peu grossier, quoi, au final. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il faut que ce soit bon et hyper bon, mais il faut aussi que ça tienne la route et que ce soit pas, voilà, si c'est juste bon, en fait, ça suffit plus vraiment, quoi, dans la, et que ça ait du sens.
Les anciens styles dont tu parles, qu'est-ce que c'est?
Bah, du coup, on a fait, par exemple, l'an dernier, une Berliner Weiss, donc c'était des bières originaires de la région de Berlin. Qui avait une acidité caractéristique parce qu'il y avait une fermentation lactique qui était faite en même temps que la fermentation alcoolique. Et dans la bière, en fait, il y a très peu d'encadrement, il y a beaucoup de liberté, on peut un peu tout faire. Donc il y a plein de manières de rendre la bière acide. Ajouter de l'acide lactique, par exemple, qui est la version la plus simple. Et donc nous, dans l'idée de démarche et de questionner la tradition, on est parti du lait d'une ferme du 77, on a fait du yaourt avec... Et ensuite, on a ensemencé une partie d'un brassin avec du yaourt pour faire une fermentation lactique. Et ensuite, on a ajouté ça à notre bière principale. Donc, en gros, c'est une sorte d'hybride entre du yaourt et de la bière. C'était bien galère et c'était, ça prenait des heures et des heures ou des jours en plus qu'un process normal. Mais du coup, c'est beaucoup plus stimulant de se mettre dans une approche comme ça que juste de se dire j'ouvre un bidon d'acide lactique et je mets ça directement dedans, quoi.
Du coup, vous avez un chef des recettes ?
C'est un peu moi le chef des recettes. Après, on essaye d'être plus en équipe avec les brasseurs. Donc aujourd'hui, on va dire que la majorité des idées, c'est moi qui vais les apporter. Et ensuite, on travaille de manière collégiale pour tester les recettes. Parce qu'effectivement, comme c'est des recettes, ça se teste. Donc on a toujours les mêmes casseroles que ce que moi j'avais à la maison. Et on fait des premiers essais avec 15 litres, on goûte, on corrige le tir pour se dire, effectivement, on considère, c'est pas parce que ça fait 8 ans et qu'on a à peu près les idées claires sur ce qu'on fait, qu'on a le droit à l'erreur. Donc on continue à faire nos gammes, à faire nos essais et ça permet, à toute l'équipe aussi de prendre davantage de repères sur, le style de ce qu'on cherche à faire, quoi. Et je pense que c'est plutôt des choses équilibrées, donc pas très fortes en alcool, pas trop amères, que ce soit... Moi, j'aime bien me dire que une bière, pour qu'elle soit bonne, c'est que j'ai envie d'en reboire une, pas forcément tout de suite après, c'est pas dans l'idée de quantité, mais c'est juste pas faire des bières pour cocher une case. Et en fait, il y a une époque dans la bière où on fait un peu des bières pour cocher une case. Donc on était à un festival il y a quelques années, la bière la plus commandée dans le festival, c'était une bière au saumon fumé. Et donc tout le monde disait, il faut la goûter, j'arrive au stand, ah bah non, il n'y en a plus. Et je demande aux gens, mais c'était bon ? Ils disent, ah non, c'est vraiment pas bon. Mais en fait, c'était drôle, quoi. Et du coup, les gens voulaient goûter ça, et je me dis, bon, c'est un peu dommage, quoi, avec tout le boulot qu'on va mettre dedans, de faire des trucs un peu folkloriques, ou un peu, mettre de la pizza dans la bière, ou j'en sais rien, du cassoulet, bon, c'est pas exactement notre délire, quoi. Quand je suis rentré des États-Unis, je m'étais fixé comme objectif de goûter 2 nouvelles bières chaque jour, et j'écrivais sur une sorte de blog toutes mes notes de dégustation. Donc j'étais le gars qui va dans un bar et qui demande s'il peut tout commander en galopin pour goûter davantage de bières et avec son petit calepin. Et je pense que c'est là où, au bout d'un an, où le côté geek... Il m'est un peu passé, parce qu'effectivement, j'ai goûté 500 bières. Mais la bière, ça reste un produit de convivialité. Et se dire, aller au bar pour commander des galopins et se dire qu'on a des points sur un site web parce qu'on a fait des commentaires, c'est un petit peu vain, quoi, au final. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis plutôt à chercher à faire des bières qu'on peut boire et reboire et qui vont supporter une conversation plutôt que de faire des trucs très funky ou très marqués. Qui vont pas forcément perdurer, quoi. Et c'est vrai que dans l'idée de recette, nous, nos bières permanentes, c'est vrai que moi, je me projette bien à me dire que ces bières-là, toute ma vie de brasseur, on va les brasser, quoi. C'est de pas de les changer tous les ans, c'est d'essayer de faire des trucs avec une portée et avec une portée très pérenne, quoi. Effectivement, je pense que ce côté long terme, c'est un truc qui me tient à cœur. On met le kale bien braisé en dessous, shiitake au-dessus, un petit peu de quelques bouts de potiron, et ensuite on peut remettre éventuellement une petite lichée d'huile d'olive ou de tournesol si on veut. Un dernier tour de poivre, et je sale beaucoup donc je vais pas en rajouter là, je pense que ça va passer, et on va juste ajouter quelques échalotes. donc un petit peu dans le vinaigre de cidre. J'ai fait 50% vinaigre de cidre, 50% eau pour que ce soit pas trop acide. Et c'est prêt à être dégusté.
Tu sers ça à quelle bière ?
Là, en ce moment, avec notre Alt brassé avec du sarrasin. Donc les Alt, c'est un style ancien de la région de Düsseldorf. C'est des bières ambrées. Et c'est des méthodes traditionnelles. Donc Alt, ça veut dire vieux en allemand. Et en gros, c'est des méthodes dans lesquelles on est à la limite de la fermentation haute et de la fermentation basse. C'est des bières assez sèches. Et nous, pour donner un petit peu plus de gourmandise, on l'a brassé avec du sarrasin, qui va donner des notes un petit peu noisettes, un petit peu gourmandes, qui vont compléter le côté assez ambré du malt. Et du coup, je pense que avec les shiitake qui sont bien dorés, avec la texture du potiron cuit au four, ça fait un truc assez gourmand, et donc c'est plutôt pour accompagner avec de l'harmonie, quoi. Voilà l'idée.
Vous venez d'écouter la recette de poêlée, courge, kale, shiitake de Thomas Deck, épisode 10 de la saison 5. Retrouvez toutes les étapes dans la description de l'épisode. Vous pouvez également suivre Thomas Deck et la brasserie Deck et Donou sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.